Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Oui, donc actuellement, je travaille avec ma femme Mathilde. Donc on fait tous les deux l'ensemble des travaux, la vigne, les vins, etc. On travaille sur 8 hectares des vignes, donc un domaine à taille humaine. C'est important pour nous d'être nous-mêmes présents à la vigne, à la cave, pour être au contact des éléments, de la nature, de nos terroirs, de nos vignes, et pour pouvoir toujours continuer à observer, à adapter nos pratiques. On travaille en culture bio depuis 2008, et une grande partie de notre surface est situé sur le Grand Cru Frankenstein, donc on cultive 2 hectares sur le Grand Cru Frankenstein, plus d'autres terroirs, et c'est ce qui nous passionne de travailler vraiment les expressions des lieux, de chaque terroir, les identités distinctes, les originalités, les personnalités de chaque parcelle.
Pour avoir l'appellation, en fait, on n'en trouve que sur l'aire d'appellation communale qui se situe autour de Heiligenstein. Et historiquement, en fait, c'est le bourgmestre de Heiligenstein, si la date je ne me trompe pas, c'est en 1742 qu'il a mis en évidence le climat.
Et il s'appelait comment?
Ered Vance.
Faites les glues.
Et du coup, ouais, c'est lui qui a ramené ce cépage qui provient d'Italie et qui a été à Strasbourg pour le défendre, pour justement que les vignerons puissent planter du Kléner à Heiligenstein.
Alors comme dit, c'est avant tout le respect de ces expressions de terroir et qui amène à des choses très larges finalement, puisque ça veut dire que c'est se passer de produits qui seraient standardisants au niveau du travail de cave et de vigne aussi. Et donc ça amène sur une complémentarité avec le sujet de l'écologie, du respect du vivant, du respect des terroirs. Donc c'est vraiment ça l'idée, avoir des sols bien vivants, en bonne santé, préservés au niveau de la biodiversité. Et donc toujours ce double objectif, la partie expression du terroir de l'univers et la partie environnementale, quoi.
On a été formé ou formaté à un style de vin qui est bien cadré, avec une identité qui est comme ça. Riesling, ça goûte ça. Sylvaner, ça goûte ça. Et voilà. Et du coup, effectivement, le problème, c'est que de l'autre côté, quand il y a des vins qui sont un peu différents, les gens, ils perdent leur repère. Et ils disent, ah, mais ça goûte pas ce que j'ai l'habitude de retrouver dans un Riesling. Je dis, oui, ok. Mais ça reste quand même du cépage Riesling entièrement, entre guillemets. Et donc effectivement, ça demande un réapprentissage ou une ouverture d'esprit, parce que c'est comme un œuf, vous pouvez faire des choses différentes avec un œuf que du sel. Et ça, je pense que c'est très important. Et on a peut-être fait trop longtemps un monologue dans un schéma un peu classique, on va dire, de vin d'Alsace qui demandait peut-être à s'ouvrir avec, je sais pas si c'est de la modernité ou un retour aux sources. Moi, je dirais plutôt un retour aux sources, parce que des vins naturels, on en a fait bien avant que des vins technique, on va dire. La technique a permis de cadrer les choses, d'avancer, d'évoluer, mais aussi peut-être à restreindre d'autres choses, ce côté émotionnel. Et,
un peu moins de vignes, qu'on va enlever de la vigne pour ajouter de la diversité, un peu plus de vignes, que ça va être l'inverse. Quel est actuellement le dynamisme du vignoble alsacien ?
Il y aura forcément moins de vignes, vu la conjoncture actuelle du vignoble. On est quoi ? On est à 15 000 hectares. Du coup, ces vignes qui vont être en friche, à l'abandon, bon bah, y a forcément une biodiversité qui va se recréer dessus, quoi. Mm-hmm. À ce titre-là, c'est, on va dire que c'est une bonne chose, mais faut juste jamais oublier que derrière ça, il y a des vrais gens, quoi, en fait. Et donc c'est terrible pour le vignoble. Est-ce qu'il l'a cherché ou pas ? Je sais pas. C'est un vignoble qui s'est pas remis en question depuis 30 ans, quoi. Donc peut-être même plus, quoi. Depuis les grands crus, l'apparition des grands crus dans les années 70, c'est jamais vraiment remis en question sur les profils de vin, sur les styles, et puis sur l'ouverture aussi de qu'est-ce qu'on laisse collectivement exister ou pas, quoi. Donc toutes les régions qui sont passés par des crises viticoles avaient ce point commun là, c'est qu'il n'y avait plus d'ouverture, c'est que les gros étaient devenus trop gros par rapport à la en proportion. Faut juste se dire une chose, moi il y a des chiffres qui sont très parlants. Les 10 plus gros metteurs en marché alsaciens font 60% du volume. On ne peut plus parler de diversité collective, hein, diversité collective. Après, quand on va la chercher, elle existe, mais collectivement sur l'idée qu'on se fait d'une région, quand les 10 plus gros font 60%, il n'y a plus de diversité. Ça n'existe plus. C'était ce qui s'était passé un peu dans le Languedoc-Roussillon il y a 20-30 ans, quoi. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant de voir comment ils s'en sortent. Ils s'en sont sortis par le haut, en fait, en revalorisant leur nom d'appellation, les Faugères, les Corbières, les Bagnouls, les Minervois. C'est des choses qui parlent à tout le monde aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Ça passe par là. Et puis, ben, globalement, ils y arrivent. Hein. Évidemment, il y a toujours des grosses productions, mais en même temps, elles ne sont pas sur ces appellations. Elles sont sur des vins de pays ou des vins de France. Et on fait de la production de cépages, du variétal. Pourquoi pas ?
Tu as une idée du cépage ou pas du tout ?
Je préfère avoir une idée du terroir sur lequel il est et de l'expression qu'il peut en avoir. À côté, le cépage, c'est un vecteur d'expression, comme je te l'expliquais. Donc, je me laisse porter par le sentiment que j'en ai, et puis le reste suivra.
J'adore Théo.
Fais pas un grand rouge avec des raisins un peu moyens.
Voilà. Tu fais pas un grand vin orange non plus, visiblement.
Non, parce que, tout simplement, tu vas aller chercher dans la peau la complexité, et donc si ta peau n'est pas mûre, tu n'as pas de complexité et tu n'as pas de longueur. Donc c'est assez exigeant en fait en termes de viticulture, parce que c'est d'ailleurs assez étrange, parce qu'on aurait tendance à penser ouais, ben orange c'est funky, c'est marrant, alors que à l'opposé c'est plutôt exigeant sur tes raisins, quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'Alsaciens qui pour moi mécomprennent une partie du vin orange, parce que non mais même
non il y a beaucoup
des fois,
oui, d'accord, tu parles de okay.
ponctuellement. Il y a des gens qui vont spontanément essayer de vinifier des oranges comme ils auraient fait des blancs. Ça veut dire, dans leur esprit, il faut aller garder un peu de fraîcheur pour que les vins soient plus goulayants, soient sympas, soient accessibles. Alors qu'en fait, pour moi, les vins oranges, c'est l'inverse de ça. Il faut de la vraie maturité pour que la peau soit mûre. Et par nature, comme ça fermente les derniers grammes de sucre, que ça va finir vraiment sec et que tu as des tanins qui rafraîchissent, c'est de toute façon un vin qui te rafraîchit la bouche, même si tu as potentiellement plus d'alcool et plus de puissance. Et donc pour moi, au contraire, les vins oranges, c'est vraiment un espace où tu peux aller à la fois chercher de la matière, de la complexité et de l'équilibre, même à travers une certaine forme de puissance.
Et on a le choix de faire bon. Et ça, aujourd'hui, c'est un choix, et c'est un choix que toute notre génération, celle d'avant et celle de juste après, on est tous dedans, quoi, et on est heureux de porter ces valeurs-là.
Sinon, on arrête de faire ce qu'on fait, et puis...
Je pense qu'on reviendra pas en arrière. Je pense que les 20 cépages, même si on l'assume, hein, il faut. Et puis ça peut être drôle aussi, une soirée, ouais, c'est
ça
un pinot gris.
En fait, un vin peut être un vin de cépage.
Bien
un
sûr.
De cépage, en fait. C'est vrai qu'on part souvent dans des débats en disant.
Toi, tu revendiques les vins de. Sur ton site, tu mets.
Ouais, non, ça c'est sûr. On pas, il faut pas que le cépage soit pris. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi, quand j'étais plus jeune, comme certains jeunes, tu l'as cité,
oui.
Je me disais carrément, il faut enlever le cépage. Faut vraiment. Faut l'enlever de l'étiquette, comme ça, le message est clair. C'est du Neuvig. Et après, on sillonne un peu certains vignobles, on parle avec beaucoup de vignerons, beaucoup de consommateurs. Bah, tant que c'est pas connu, ça voudra plus rien dire en fait. Et les gens ont quand même besoin de repères. Je disais avant, on peut déguster, on peut manger des choses à l'aveugle, mais même à la fin du repas, même moi, je l'avoue, si j'ai tout fait à l'aveugle, à la fin du repas, j'aime bien quand même savoir si c'était du bœuf.
Bien sûr.
Il y a un moment donné, on a besoin d'être curieux dans la vie, et ça, cette curiosité, elle doit être.
C'est une force ou c'est une faiblesse? Parce qu'on dit toujours que c'est. Quand tu vas chez un Alsacien, il a 7 cépages, mais il a sur plusieurs terroirs différents. Des fois, il a quelques millésimes en plus, donc tu arrives souvent à 15, 20 choses à goûter différentes, et que c'est souvent une faiblesse quand tu es sur un salon, quand tu fais découvrir à des clients. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Est-ce que tu penses que ça peut être une faiblesse?
Pour moi, c'est pas une faiblesse, pour moi, c'est une chance. La faiblesse, elle serait d'avoir 5 clones de 5 cépages basiques et de les travailler au goutte à goutte sur un sol mort. Je pense qu'elle serait plutôt la faiblesse de faire tous les ans 5, 20 identiques. Je trouve ça plutôt malheureux. Alors que nous, on est plutôt. Voilà, les vins changent tous les ans, les vins sont différents, les vins sont le reflet du millésime, le reflet du travail du vigneron, le travail il est différent tous les ans parce que le millésime est différent, mais aussi le vigneron. Il y a des années où on a d'autres idées, on a d'autres manières de penser, et donc les vins évoluent.
Les clients à nous, donc comment ils ont réagi? Ben on va dire que on a 80%, 90% qui n'acceptent pas forcément à cette voie-là. Et du coup, ces 90%, on a trouvé d'autres clients, du coup. Une clientèle un peu plus jeune, plus ouverte d'esprit aussi, forcément. Sinon, après, les 10% restants des clients particuliers, surtout, parce que c'était beaucoup des clients particuliers qu'on avait au domaine à l'époque de mon père. Ces 10%-là ont apprécié quand même notre travail, quoi, notre façon de faire aussi, d'avoir tourné en fait une page, une grosse page, on va dire.
Les gens qu'on va voir, ils ont la passion qui transpire de partout. Ouais, peu importe l'âge, et voilà, justement.
Et c'est vrai que
même. Comme disait Kylian Mbappé, bon, une fois c'est moi qui vais le citer, je connais pas bien. Le talent n'attend pas le nombre des années, bordel. C'est ce qu'il avait dit. En termes de notoriété, de réputation et de qualité, est-ce qu'il vaut mieux avoir un hectare sur le Klevener de Liechtenstein ou en grand cru?
Je dirais un hectare sur le Klevener de Liechtenstein.
Ringard, c'est souvent lié à un effet de mode. Mais la mode, elle est changeante. Donc je dirais pas forcément Ringard, je dirais plutôt dans l'uniformité du vignoble. Alors, on goûte de tout. Il y a de tout. Il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Mais je dirais pas qu'il y a vraiment de très mauvais vins. Ça, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, les œnologues qui interviennent dans certaines caves, machin et tout, on arrive à toujours avoir du vin qui est correct, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, le très mauvais vin, ça existe très peu. On a une culture du cépage qui est omniprésente. Mais par contre, on n'a pas d'uniformité dans les cépages. Donc du coup, on va goûter un Riesling. Alors, on peut avoir un Riesling à 20 grammes, un Riesling à 5, un Riesling à 10 grammes, un Riesling à 12 grammes. Alors oui, le sucre, on va pas. C'est une donnée scientifique, hein, finalement. Mais en bouche, on n'a pas. En fait, je pense qu'on manque un peu d'uniformité dans le vignoble. On manque vraiment quelque chose qui soit uniforme. Mais pas l'uniformité dans le goût, l'uniformité dans la. Dans le. Comment appeler ça? Dans la perception du sucre, en fait, si on veut. Souvent, on a. Bah oui, des Riesling à 20 grammes, on le sent tout de suite, quoi. Après, je simplifie avec un Riesling, hein, mais Riesling à 20 grammes, voilà, on le sent, c'est sucré, c'est pas très sexy, quoi. Alors qu'un Riesling sec tendu, c'est quand même beaucoup plus sexy. Après, le vin ne doit pas s'arrêter à la définition de la sucrosité. Mais c'est vrai qu'on a une culture du cépage de façon qui est omniprésente. et ensuite la culture des terroirs. Et cette culture-là commence, je pense, à prendre un peu plus d'ampleur que ce qu'il y avait peut-être il y a 10 ans. Alors on a toujours eu il y a toujours des précurseurs de toute façon, toujours des gens qui ont 20 ans d'avance, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Et je trouve que, et s'en inspirer justement de ces visions-là, on fera pas les mêmes choses, mais par contre la vision, le pourquoi du comment est vachement intéressant à comprendre. Et donc c'est vrai que quand on déguste des vignerons qui nous parlent de leur terroir, qui nous parlent de leur petite parcelle nichée entre deux collines, qui donne un vin qui est complètement différent d'un simple
envie
de autre chose. T'as pas un autre lieu dit, t'as pas un de ça, d'en savoir plus. Et ça me donne envie limite de visiter la parcelle, quoi. Parce que c'est un lieu, je pense, qui doit inspirer la personne. C'est... Moi, quand je fais un lieu dit, c'est que je suis bien quelque part, quoi. C'est un lieu qui est différent, qui a une énergie qui est différente. Si on n'a pas... Je pense qu'il y a des sols qui ne donnent pas forcément énormément d'énergie. Je pense que on a... Moi, j'ai des terroirs hein, dans les plaines, très clairement, qui donnent des super vins de fruits. Voilà. C'est des super vins plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir de les boire. Mais on n'a pas cette complexité en bouche, on n'a pas le terroir, on peut pas. Je peux pas vous dire si c'est bon, c'est du limon. Oui, voilà. Mais je peux vous invoquer tout ce que vous voulez. Mais non, c'est un super vin de fruits. Un super vin de fruits. Voilà, ça s'arrête sur un vin qui est simple. Mais de l'autre côté, il faut pouvoir aussi se dire qu'on a des lieux qui nous inspirent, qui nous donnent une énergie. Le vigneron s'y sent bien. Il faut essayer d'en faire quelque chose. Il faut y voir le potentiel de celui-ci. Il faut pas se dire, tiens, on va le noyer dans la masse. Non, justement, c'est des vins de lieu qui nous permettent après d'exprimer le lieu. Et puis le plus beau, c'est quand on va avant les vendanges, quand on va goûter les raisins de ces vins de lieu, et puis quand on goûte les raisins des autres parcelles, on se dit t'as quand même une différence, quoi. Quand même un truc qui est différent. Si on les mélange, c'est dommage. Donc c'est vrai qu'en Alsace, on a quand même une forme moi je trouve que c'est pas si homogène que ça, quoi. On trouve de tout.
Comment tu es perçu par ton père? Qu'est-ce qu'il te dit?
Alors moi j'ai la chance que il n'y a pas eu de vrais conflits de génération. Mon père était déjà à l'époque précurseur au niveau de la notion de bio. Au niveau des vinifications, il était déjà quasiment nature. Il faisait très peu d'intrants œnologiques. Il mettait juste un peu de soufre avant la mise en bouteille. Il filtrait, c'est tout ce qu'il faisait. Et au moment où j'ai commencé à changer un petit peu la façon de vinifier le goût des vins, la première approche était un petit peu curieuse parce que il se posait la question de ah tiens, t'as envie de travailler comme ça, c'est particulier. Et il a tout de suite adhéré. Et là maintenant, depuis quelques temps quand même, mais il peut pas boire autre chose.
Et c'est quoi la première chose qu'il a dit?
La première chose qu'il a dit, il m'a dit attention, c'est risqué ce que tu fais. Il avait aussi peur parce qu'au niveau des produits œnologiques, il n'y a pas de béquille, il n'y a pas de solution pour réparer certains vins. Et lui, il trouvait ça très risqué parce qu'il faut savoir que c'est l'enjeu d'une récolte complète qui est... Donc, c'est-à-dire si le vin il va dans le mauvais sens, plutôt vers le vinaigre par exemple, c'est la ferme qui peut être mise en péril. Donc il avait un peu peur et tout s'est bien passé.
Et aujourd'hui, tu perçois son regard, il en dit quoi aujourd'hui?
Donc là, il est satisfait, il voit que ça tourne bien, il voit que les vins sont bons et que les vins plaisent. Donc pour lui, il n'y a aucun problème.
Et il te le dit?
Il le boit.
Donc c'est la meilleure réponse, en fait, c'est ça?
Ouais, non, il le dit. Non, je pense qu'il en est fier. Hein, c'est comme toujours dans le milieu paysan, on dit quand ça va pas, on dit pas forcément quand ça va. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il est assez fier de ce qui se passe.
C'est quoi la meilleure des choses qui t'a appris, vraiment?
Alors lui, il m'a appris pas mal de choses, notamment au niveau de la vigne. On va parler de la sagesse des anciens. Donc c'est-à-dire le fait de laisser le temps au temps. Hein. Lui, sa phrase préférée, c'est « il est urgent de ne rien faire ».
Et t'as toujours voulu reprendre le domaine ou c'est arrivé tardivement?
Alors pour le coup, voilà, je pense que c'est comme tout le monde, on passe par un âge un peu rebelle. On vient parfois être un peu réticent sur ce qui se fait, bon. Et donc ça a pris un peu de temps, mais après c'est venu très vite, hein, automatiquement. Depuis tout petit, voilà, moi j'ai toujours eu souvenir d'être dans le tracteur avec mon père, assis sur la caisse à outils, en été, pendant les labours, pendant tous les travaux. Donc j'étais tout le temps fourré avec, automatiquement. Au bout d'un moment, ça apparaît comme une évidence. On peut se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même tellement de belles choses à faire avec la nature, avec le raisin, que je pouvais pas passer à côté de ça.
Et Mon père me disait, en goûtant les premiers vins, c'est les vins de ton grand-père, quoi. Mais eux, parce que eux faisaient macérer dans les boutiches, dans le pressoir, ils n'avaient pas les mêmes atouts technologiques qu'au jour d'aujourd'hui. Et des fois, ce qui n'était pas fait le soir même, était reporté au lendemain. Et donc, si les raisins restaient dans la cour avec des nuits fraîches une nuit, c'était pas très grave. Mais macération, voilà. Petite macération de 24 heures. Et du coup, derrière, il était très bon le vin. Voilà. Et on a peut-être un peu cultivé ça. Il me racontait même que les millésimes un peu froids, où on avait peut-être.
Une question sur la créativité. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la créativité?
Ouh là là, vache. C'est au bac de philo en 98, justement.
Ouais.
Relation entre le terroir et la créativité.
Tu l'avais noté, celle-là?
Oui.
Bravo. Bravo. Il me faudrait un petit temps pour y réfléchir, mais on peut toujours trouver des liens, ouais. On a combien de temps au bac? 4 heures. Et effectivement, en fonction de... En fait, ça me revient par rapport au Vinek Schlossberg d'avant, entre le terroir et la créativité. Et il y a, avec les aléas climatiques qu'on connaît, les cépages qui sont installés en Alsace, des... dégénérescence en fait, si tu veux, des choses qui marchent plus, tu vois. Que ce soit des cépages, des manières de faire les choses, de vinifier ou de cultiver la vigne traditionnellement avec les plans de palissage à 2 mètres de haut et tout ça, qui t'oblige à être créatif et du coup à envisager de nouveaux types de vinification, genre une macération d'un mois égrappée puis élevée en amphore, tu vois. C'est quand même un truc que si je dis ça à mon grand-père, il va rien comprendre, quoi, alors qu'il a fait du vin toute sa vie. Et donc je pense que ouais, tu vois, pour ce genre de choses, pour finalement s'adapter, pour se renouveler, pour aller de l'avant, pour faire mieux, on doit être créatif pour respecter et continuer à exprimer le terroir. Moi, ce que je trouve génial, c'est l'empreinte du terroir. On parlait avant de cépages qui finalement expriment de manière différente un terroir, ou un terroir qui s'exprime de manière différente à travers un cépage. Et enfin là, de rajouter des cerises dedans, et alors effectivement du même terroir, hein, et de se dire, ok, là le terroir, je le reconnais quand même, c'est grand. Enfin, il y a un truc, quoi. Je sais pas.
Ça aussi, c'est une grande question que les gens se posent. Ah oui, c'est du vin sans soufre. Donc, faut le boire ce soir ou demain matin, parce que...
Ça tient longtemps ou pas?
Alors, moi, je m'excuse, mais j'ai jamais fait de tenue à l'air aussi intense, bouteille ouverte, que sur mes vins de macération. J'ai des copains, même à Paris, je suis déjà arrivé chez des copains, ils m'ont dit, ah ouais, tiens, j'ai des bouteilles de Neuweg, il y avait encore 10 cm dans la bouteille, ça faisait 3 semaines qu'il était au frigo. Je dis, bah vas-y. Alors, je dis, la première chose qu'on va faire... C'est pas le boire froid de ton frigo, c'est bien d'avoir mis au frais, mais on va le laisser tempérer à nouveau, et puis après on va le goûter. Et il était, il y avait une forme d'oxydation, il y avait peut-être une petite perte d'acidité, une petite mollesse dans la bouche, mais c'était de loin pas fatigué.
Mais c'est quoi la touche Fischbach, Dreyfus, c'est quoi? Ouais.
Ça, c'est une bonne question, parce que parler sur soi, c'est toujours compliqué. C'est peut-être ma tête. J'en sais rien.
Après, sur ta tête, t'as une gamme pour l'instant qui est très très large. Je pense oui. Qu'en 2020, tu vas déjà recentrer.
Je resserre la gamme, clairement. J'exploite 4 hectares. J'avais 11 cuvées.
D'accord.
Donc, ce qui est quand même beaucoup. Mmh. Mais bon, après, j'ai un parcellaire et un parcellaire assez morcelé avec plusieurs terroirs, avec tous les cépages. Plus le chasselas, et donc ça fait, c'est vrai que ça fait un bon nombre de cuvées. Derrière, c'est le temps aussi de trouver les assemblages, les terroirs qui vont bien, les proportions qui vont bien.
En Alsace, on a vraiment, franchement, on a vraiment de quoi faire. On a de quoi construire, exactement. Mais il faut que ce soit entretenu, il faut que ça vive. On est souvent trop dans la, je trouve souvent trop dans la retenue. On commence déjà à s'excuser avant d'avoir fait quelque chose de mal ou de bien. Et même quand on fait un truc bien, on s'en excuse d'avance, quoi. C'est ce qui est marrant en Alsace aussi. Tout est vrai et surtout son contraire.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément partager ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.